CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau qui va continuer sa chronique, cette fois-ci sur l'électricité, et qui va nous donner une clé pour sortir de la crise climatique.
Oui, parce qu'il faut regarder la réalité en face. La crise climatique est déjà là et le négationnisme climatique qui se développe n'efface pas cette réalité.
Sera suivi d'une chronique à table et Clément va nous parler cette fois-ci de l'anusiculture.
Voilà, avertissement, cette chronique peut contenir des phrases de fruits à coque.
Et enfin, on terminera l'émission avec Jean Barbare qui va nous parler des émissions de CO2 dans les moyennes et grandes villes.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, on va parler d'air pur, de particules fines et de grandes ambitions. Pas celle des parfumeurs de la rue Saint-Honoré, non, celle de Paris en particulier.
Tout de suite, la chronique dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, comment résumer cette réalité ?
Les sociétés partout dans le monde sont confrontées à des événements extrêmes, incendies, tempêtes, inondations, sécheresses, avec toutes leurs conséquences pour les humains et la biodiversité. Tout cela a été annoncé de longue date par les lanceurs d'alerte, comme les scientifiques du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En 2023, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alertait sur, je le cite, « une planète au bord du gouffre », indiquant que la pollution par les combustibles fossiles provoque un chaos climatique sans précédent. Les conférences sur le climat de l'ONU ont adopté qu'il fallait réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre en 2050 la neutralité carbone, c'est-à-dire que ces émissions devront être suffisamment faibles pour être totalement absorbées par les puits de carbone comme les forêts et les océans. L'objectif de réchauffement maximum fixé par l'accord de Paris en 2015 de 1,5 degré est déjà atteint. Il y a donc urgence à sortir des productions fossiles et à décarboner les productions.
Et à l'échelle nationale, comment sont déclinés ces objectifs ?
Ils sont déclinés dans le cadre du plan qui s'appelle Stratégie nationale bas carbone, SNBC, qui prévoit d'ici 2050 de réduire drastiquement les consommations de 50% par rapport à 2012 et de décarboner totalement la production d'énergie. Pétrole, gaz et charbon doivent être remplacés par d'autres sources, biomasse, solaire, éolien, hydraulique, géothermie, nucléaire. Actuellement, l'électricité produite à partir de sources décarbonées représente un quart de la production. En 2050, elle devra atteindre les deux tiers.
Comment organiser et mettre en œuvre une telle transition énergétique ?
C'est bien la question. Quelle électricité pour demain ? Le recours au nucléaire soulève les débats clivants, alors qu'il existe des scénarios sans nucléaire considérés comme techniquement crédibles, mais avec d'autres questions. Accepte-t-on d'avoir recours aux biocarburants ? Quel niveau de développement de l'éolien, sur terre comme sur mer par exemple ? Les choix sont complexes. Aucun mode de production énergétique n'est neutre pour l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie. Consommation de ressources, pollution, déchets, artificialisation des sols, impact sur la biodiversité. On voit les réactions par rapport aux éoliennes, par exemple. Ce qui est compliqué, c'est de planifier une production d'électricité pour demain, où à chaque instant, un équilibre parfait doit être maintenu entre production et consommation, sous peine de coupures massives. L'association Négawatt a développé une vision de long terme en 2003 en détaillant les consommations par secteur d'activité, industriel, tertiaire, ménage, et en regard la production nécessaire par filière et en choisissant de ne pas relancer de nouvelles centrales nucléaires et de prioriser la baisse de consommation. Le réseau de transport d'électricité, RTE, a proposé 6 scénarios. L'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, en a proposé d'autres avec une sobriété renforcée. Tous ces scénarios font ressortir des points de consensus. Nécessité de baisser drastiquement la consommation, de développer massivement les énergies renouvelables, de développer la flexibilité de la consommation et le stockage. Mais ils ne permettent pas de trancher certains choix. Le nucléaire, oui, mais acceptons-nous le risque d'accident et la gestion des déchets irradiés ? Plus d'éoliennes et de fermes solaires, oui, mais artificialisation des sols et risques sur la biodiversité. Acceptons-nous de changer de mode de vie et de réduire notre consommation? Quelle répartition de la production sur le territoire et quel coût? L'importance de ces choix nécessiterait une délibération démocratique et non pas des décisions verticales sans consultation citoyenne réelle. Par ailleurs, les politiques européennes de libéralisation ont imposé de soumettre l'électricité à la loi de l'offre et de la demande en la traitant comme une marchandise quelconque, alors que ce secteur vital dans la lutte contre le réchauffement climatique exige au contraire une sortie du marché et une reprise en main publique et démocratique de ce secteur.
Merci Monique. Pour aller plus loin, plusieurs ouvrages sur cette question essentielle sur le site d'Attaque, france.attaque.org, et le livre « L'énergie et notre avenir, socialisons-la » aux éditions Les Liens qui libèrent, mai 2025. Tout de suite, la chronique gastronomie avec Clément Chassin. À table avec Clément Chassin.
Oui, donc cette semaine, une chronique à la noix.
Alors, on veut tous savoir ce que c'est que la nuciculture.
Voilà, bah, la nuciculture, c'est juste la culture des noix. En fait, noyers. Okay. Des noyers et donc des noix. Voilà, on est dans la saison, hein, donc il faut en profiter. C'est de septembre à novembre donc, qu'on trouve les noix fraîches.
Il faut enlever la peau quand on les mange.
Alors, tant pis, alors surtout, on trouve en ce moment les noix fraîches, mais surtout, ça se conserve très bien les noix, donc on en a pour. On peut en mettre de côté pour les
Tout
noix.
Tout à fait.
Mais, voilà, mais c'est le moment pour. Si on veut des noix fraîches, et puis c'est le moment où c'est moins cher, donc on peut les acheter et puis les stocker. La noix, bon, bah, que dire, on en trouve en France depuis des siècles. Ça pousse alors principalement Isère, Dordogne, Périgord.
Ah, il y en a en Normandie, hein.
Il y en a, après, t'en trouves un peu partout en France.
Magasin, hein. Mais là,
je suis sûr que dans les jardins,
des arbres.
Principalement Isère, Dordogne, Périgord, tout ça, on en trouve un peu partout en France, ça c'est évidemment. Voilà, le premier producteur français, c'est l'Isère. Et il faut quand même savoir qu'il y a une appellation d'origine contrôlée, AOC, oui. Noix de Grenoble, qui remonte à 1938. Ça fait partie des premières appellations d'origine contrôlée. Oui. Non, la noix, c'est vraiment inscrit dans notre patrimoine. Voilà. Que dire de plus? Ça se conserve très bien. On peut en faire plein de choses. On peut manger les cerneaux. On peut en faire de l'huile. On peut faire du brou. De noix.
Exact, ouais.
Voilà.
Pour peindre les vieux meubles, en marron foncé.
On peut utiliser le bois de noyer pour la menuiserie, pour l'ébénisterie, la fameuse ronce de noyer. Voilà, donc ça a que des qualités. Mangez-en, merci, voilà.
C'est non, ce qu'on fait.
Je vais pas m'arrêter là.
Là, tu passes à la recette?
Alors, non. Donc, je vais quand même un peu continuer.
Vas-y.
Voilà, je vais un peu compléter. Alors, outre que donc il existe une belle filière française et qu'il faut soutenir nos nuciculteurs, c'est aussi vachement bien pour les consommateurs que nous sommes. Mmh. Alors, la noix, pourquoi c'est bien? C'est très énergétique. Et c'est très énergétique parce que ça contient...
Des protéines.
Aussi, mais ça contient surtout...
Des glucides.
Non, justement.
Des lipides.
Des lipides, voilà, c'est du gras.
Et tu fais pas de l'huile avec des glucides, voyons.
Voilà, puisqu'on fait de l'huile de noix, c'est parce que ça contient beaucoup de lipides. Et c'est très bien. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est gras. Oui, c'est gras, mais c'est riche en acides gras polyinsaturés, notamment en oméga 3. Voilà, et oui.
Bah voilà.
30 grammes de noix, ça suffit à la dose journalière recommandée pour un adulte. En oméga 3. C'est... Ah oui, c'est vraiment.
Alors 30 grammes, ça fait combien de noix?
Ça dépend de la taille de tes noix après.
Il faut faire des calculs. Hein.
Non, mais c'est pour dire que c'est vraiment très riche. Voilà. Donc, quelques noix au petit déjeuner ou en encas, au cours de la journée, t'as un petit creux, tu manges quelques noix, ça te donne de l'énergie, mais c'est pas des glucides, c'est pas un boost d'énergie qui va s'épuiser rapidement. Non, c'est de l'énergie qui va durer. C'est très bon. Alors, c'est gras, mais. Contre-intuitivement, ça peut aider à faire baisser le cholestérol. Parce que justement, c'est des acides gras polyinsaturés. Ouais. Et du coup, c'est vraiment bon. Voilà. Le cerneau de noix, à quoi ça ressemble?
Ça ressemble à des poumons.
À un cerveau.
Et justement, c'est bon pour le cerveau.
Ah.
C'est bon pour le cerveau. Bah oui, la matière grise, ce qu'on a dans la tête, c'est du gras. Et donc en fait, on a besoin de gras. Donc c'est vraiment... C'est plein de bonnes choses, voilà. Et le deuxième apport après les lipides, effectivement, c'est les protéines. Donc c'est vraiment intéressant, notamment alors pensé pour les végétariens et tout ça, c'est vachement intéressant parce que ça a un apport de protéines, de lipides qui est vachement bon. On peut utiliser la noix en salade, dans des gâteaux, dans des plats, on peut en mettre partout. Là, je vous ai fait des petits croquants aux fruits secs. Alors, c'est pas que de la noix, j'avoue. Je vous donne la recette rapidement. Donc, c'est à peu près 150 grammes de fruits secs. Donc là, j'ai mis des noix, j'ai mis des noisettes, des amandes.
Ouais, donc, Clément nous a amené des biscuits. C'est des biscuits, on peut
appeler. Oui, c'est ça, c'est des petits croquants. Voilà.
C'est délicieux.
Donc, 150 grammes de fruits secs que je concassais, en gros. Hein, voilà. 175 grammes de sucre, 60 grammes de farine, 2 œufs. Tu mélanges le tout. 5 minutes au four, alors assez chaud, hein, 220 degrés. Mmh. En 5 minutes, hop, tu fais ta plaque, tu remplis, tu poses sur ta plaque, tu fais des petits tas sur ta plaque. 5 minutes au four, tu les sors au bout de 5 minutes. Donc à préparer, il faut juste le temps de peser. Quoi, c'est ça. Bon, à limite, le temps que le four préchauffe. Quoi. Ça cuit en 5 minutes, enfin en un quart d'heure, tu te retrouves avec une fournée de gâteaux.
C'est délicieux.
Et voilà, t'as des gens qui arrivent, t'as rien prévu. Hop, en un quart d'heure, t'as un truc qui réussit.
Alors là, il y a des fruits, assez bon.
Des noix et des noisettes.
Ah oui, d'accord. Ça, avec des petits fruits rouges.
Mais il a rien écouté. Il a rien écouté.
Ça doit être très bon.
Il a pas compris qu'on parlait des noix, quoi.
Il faisait que manger.
Voilà, il en a mangé plusieurs, j'avoue.
Faut mieux éviter de mâcher devant le micro, je crois.
Non, ça fait de la ASMR.
Pendant combien de temps on peut conserver les noix? Parce que moi, on m'en a offert il y a quelques années, puis je les ai toujours parce que j'en ai pas mangé beaucoup.
Ça fait 42 ans quand elle dit quelques années.
Combien de temps on peut les conserver?
Alors, bonne question, je sais pas combien de temps ça peut se conserver. Si on les conserve au sec, ça peut se conserver des mois sans problème.
Elles sont dans un sac.
Ah, pas 3 ans quand même.
Je pense qu'il faut essayer peut-être un moment de l'ouvrir et puis de voir dans quel état
elles sont. Parce qu'au bout d'un certain temps, ça devient rance, puisque c'est de l'huile. Donc, quand tu goûtes et si elles ont le goût de rance, c'est foutu. Voilà. Mais
on le sent.
J'en ai gardé 2 ans, moi.
Au sec, ça se garde
2 ans.
Il y a plus de 2 ans.
Oui. Merci beaucoup Clément Chassin pour d'abord cette dégustation et cette présentation de nouvelles recettes aux noix. On passe tout de suite la parole à Jean Barbare.
De tout et de rien avec Jean Barbare.
Mesdames, messieurs, let's go. Il fut un temps où Paris, c'était la capitale des gaz d'échappement. Aujourd'hui, c'est en passe de devenir la capitale du découplage. Oui, oui, c'est le mot chic qu'emploient les scientifiques pour dire qu'une ville peut croître économiquement tout en réduisant ses émissions. D'après l'étude européenne ICOS Cities, menée avec Air Paris, les capteurs installés dans la capitale montrent une baisse d'un mégatonne de CO2. Alors le chiffre à un bal. À votre avis, Jonathan Denu, menez couteau.
J'ai toujours moi.
Une mégatonne en équivalent d'habitants de Paris annuel, ça fait combien?
Ça fait... En habitant, t'as dit?
Oui, en habitant.
Alors une mégatonne, je dirais que ça fait 1 million.
On a 1 million, Monique.
1 million.
Mégatonne, c'est énorme.
Clément?
Allez, on va dire 3 millions.
Ah, alors, c'est très enthousiaste, mais c'est beaucoup moins.
Ah, merci.
Grosso modo, c'est 200 000 Parisiens de moins.
Oh, ça va, c'est pas aberrant.
Ça, c'est les Parisiens, en fait.
Oui. Mais il y a quand même de quoi ravir nos amis de province avec 200 000 Parisiens de moins. En tout cas, cette réduction vient surtout de la chute de la circulation des voitures thermiques et de la rénovation énergétique des bâtiments. Pour résumer, Paris a fait le ménage. Isolation des écoles, vélo à gogo, ZFE et même des toits végétalisés. Bref, la ville apprend à respirer. Mais attention, on ne sort pas de la bouteille de champagne bio tout de suite. Car si l'objectif 2030, réduire de moitié les émissions par rapport à 2004, semble atteignable, celui de la neutralité carbone en 2050 reste une autre paire de manches. Yvonne Albarus du GIEC le dit clairement, le plan actuel ne suffit pas. Mais avant de penser 2050, Paris fait déjà partie des 27 métropoles mondiales qui ont atteint leur pic d'émissions, tout en maintenant la croissance, avec le fameux découplage. Moins de 2% d'émissions par an, plus 3% de PIB et une démographie qui progresse. Les villes polluent moins, génèrent de la valeur et attirent. La transition énergétique, c'est pas une punition, c'est un marché. Les villes pionnières ont compris que la décarbonisation, c'est aussi de l'innovation, de l'emploi. Dans le balai mondial, les villes s'organisent. Guangzhou s'attaque à ses industries vertes, Montréal électrifie sa flotte de véhicules et la mission 100 villes neutres en Europe finance des mini-grids qui sont des réseaux locaux de production énergétique. Mais surtout, la décarbonisation sort du brouillard politique. Grâce au réseau de capteurs ICOS, Paris suit ses émissions en temps réel. Fini la politique à l'aveugle, c'est la donnée qui pilote. Le carbone devient mesurable, traçable et gouvernable. Et derrière le tableau de bord, il y a la question qui fâche, l'argent. Les économistes appellent ça le dérisking. Traduction, il faut rendre le climat rentable. Les villes regroupent leurs projets, mélangent des subventions publiques et des fonds privés pour assurer les investisseurs. La transition énergétique est devenue un écosystème négociable sur les marchés. Mais derrière les jeux de chiffres, n'oublions pas qu'on parle de visages qui ne respirent pas tous le même air. Dans l'Est parisien et dans de nombreuses banlieues, là où les passoires énergétiques s'entassent, la neutralité carbone sonne encore comme un luxe. Pour conclure avec les mots de Victor Hugo, si je ne manque pas d'air, c'est la faute à Critère. Le nez dans les travaux, c'est la faute à Hidalgo. Allez, question pour finir. Est-ce qu'aujourd'hui on râle contre la transition ou juste sur le fait qu'il faille changer nos habitudes ?
Alors, c'est un peu lié quand même, non ?
C'est un peu lié. C'est quoi la dernière fois que vous avez changé une habitude pour décarboner votre activité ?
Alors ça compte si on met une brique dans la si on met une brique dans la partie chasse d'eau de ses toilettes.
Oui, ça compte bien sûr.
Ouais, je crois que j'ai fait ça assez récemment. C'est le plus récent que j'ai fait. Je roule en vélo et en trottinette. Voilà, je sais pas si
ça, les experts sont assez formels, hein. Le transport, c'est vraiment un des plus gros pôles de consommation de création de carbone. Clément Chassin.
Moi, je mange pas trop de viande.
C'est vrai.
Moi, je mange pas de viande. Oups.
Monique mange pas.
Elle mange plus du tout.
Elle a arrêté de manger.
Je ne mange pas de viande rouge du tout. Qu'est-ce que je fais ? Je demande des bus gratuits pour favoriser les transports collectifs dans ma ville.
Ça, c'est l'engagement politique.
Bah, c'est une demande.
Ah oui, bien sûr.
Et autrement, je monte beaucoup d'escaliers. À pied. Mais
pour quelque chose, il y a un objectif ou c'est
non,
du sport ?
C'est comme ça. Tout
ah
le
oui,
matin.
Comme ça, tous les matins. Pour se réchauffer.
Excellent, merci beaucoup.
Merci Jean Barbare, merci à tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi matin, 8h, comme toujours. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.